Bonjour à tous et à toutes en ce cinquième dimanche de l'été où nous partageons nos cultes et vivons tout ce qui nous unit plutôt que tout ce qui nous différencie. Bienvenue à Philippe qui apportera le message et célébrera la scène avec moi. Bienvenue à chacune et à chacun, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, d'où que vous en soyez de vos cheminements, de vos interrogations, de vos doutes. Le Seigneur est amour et c'est lui qui nous accueille tel que nous sommes dans sa maison. Alors que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de son Fils Jésus-Christ. Bienvenue, oui. Et Elena n'est pas là?
Je ne l'ai pas vu. Donc est-ce que Daniel peut descendre avec les enfants?
Oui, bien sûr.
Merci, Daniel. C'est bon. Invoquons le Seigneur. Toi qui nous appelles à te rencontrer, toi qui nous appelles à t'approcher, sois au milieu de nous ce matin, comme une mère qui protège et qui aime, comme un père qui écoute et qui comprend, comme une sœur qui héberge et compatit, comme un frère qui console et qui partage. Toi qui nous appelles à te rencontrer, sois au milieu de nous ce matin. Amen. Et je vous invite à chanter un premier chant, le 21-08, les trois strophes. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Seigneur. Seigneur, en regardant notre monde et le quotidien de notre vie, que de raison de pleurer, que d'injustice, que de haine, de souffrance et de peur. Le malheur semble habiter l'humanité, le désespoir envahit nos pensées. Et pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, tu viens déposer la force de ta présence, ouvrir l'espace de ton règne, construire des ponts par-dessus les murs de nos impasses. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie du monde. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité qui veut renverser, transformer, renouveler l'existence pour que creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui rend heureux. Loué sois-tu. Assurés de l'amour de Dieu, nous pouvons nous confier à lui. Sais-tu, Seigneur, le ciel vide au-dessus de nos têtes? Sais-tu les cailloux d'une route qui n'en finit pas? Sais-tu le cri muet qui s'étrangle dans nos gorges? Sais-tu le désespoir de vivre quand l'amour n'est plus aimé? Et toi, dit Dieu, sais-tu les trésors de consolation dont vous ne voulez pas? Sais-tu mes vains appels dans la brise du soir? Sais-tu ma main tendue que vous ne saisissez pas? Sais-tu la déchirure du ciel ce vendredi-là? Sais-tu la brûlure de mon cœur quand je frappe à votre porte? Dis-le, le sais-tu? Et je vous invite à continuer ce moment de repentance avec le 4304, les deux premières strophes. Seigneur reçoit, Seigneur pardonne. Je vous invite à rester debout pour recevoir le pardon de Dieu. L'apôtre Paul écrit : C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Seigneur, continue à nous donner pour que nous puissions partager. Continue à nous pardonner pour que nous sachions être indulgents. Continue à nous bousculer pour que nous ne puissions nous endormir. Et prends patience avec nous pour que nous ne lassions pas de te servir. Amen. Et nous chanterons les strophes 1, 3 et 4 du 4707. Les strophes 1, 3 et 4. Prions. Seigneur, au moment d'ouvrir les Écritures, ouvre nos oreilles à ta parole. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous révéler. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'elle porte en nous ses fruits. Que ta parole soit une lampe pour nos pas et une lumière pour nos chemins. Sois avec Philippe qui est pour nous ce matin, messager de ta parole. Et le texte de ce jour se trouve dans Marc 5, les chapitres 1 à 20. C'est la guérison d'un démoniaque dans la Décapole. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il s'écria : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il l'interrogeait, Quel est ton nom ? Il lui répond : Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Elle le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant : Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. Il le leur permit, et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Elles se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement.
Bonjour à chacun, à chacune. Il est parfois difficile de trouver dans la Bible des textes qui nous aident à penser, des sujets qui nous tiennent à cœur, tels que celui de la liberté, par exemple, qui est l'objet de notre thématique estivale en commun. La liberté. Difficile de trouver des textes qui nous tiennent à cœur dans la Bible. Et cela tient au fait que la Bible est principalement composée de textes qui n'utilisent ni concepts, ni théorie. Il arrive donc souvent que la Bible parle d'un sujet sans forcément utiliser le mot-clé, le hashtag que nous utiliserions, nous. Les récits bibliques, ce sont des histoires qui abordent des thèmes, des concepts, en utilisant la matière première des histoires, et la matière première des histoires, ce sont des personnages. Quand les textes bibliques sont plutôt des réflexions ou des corrections, comme les lettres de l'apôtre Paul, par exemple, alors il y a des concepts, il y a plus de concepts, mais dans la Bible, les concepts ne sont pas premiers. Les théories ne sont pas premières. Voilà pourquoi il n'est pas si facile de trouver le mot « liberté » dans la Bible, en dehors des lettres de Paul, ou d'un mot ou l'autre du Seigneur Jésus. Et pourtant, la liberté est non seulement bien présente dans la Bible, mais elle constitue, je crois, l'un de ses thèmes majeurs de la Genèse à l'Apocalypse. La liberté pour Dieu, c'est un concept fondamental. Et c'est le cas de cet épisode que nous venons de lire, où le mot « liberté » ou « libération » n'est jamais employé, alors qu'en fait, le texte lui-même ne parle que de ça. L'homme que Jésus rencontre, il a l'apparence d'un homme libre, irréductiblement libre. Verset 4, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié par des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Un homme libre, un insoumis, un résistant, un insoumis qu'on ne peut pas ligoter. Et de prime abord, cet homme-là, il peut nous sembler libre. On ne peut plus libre. Il avait rompu ses chaînes. Puis en fait, quand on lit un peu plus, on découvre que ce n'est qu'une apparence. L'apparence de la liberté. Et cette fausse liberté, on la repère déjà au fait que l'homme passe son temps, le texte nous dit nuit et jour, passe son temps à se meurtrir avec des pierres. Ce serait ça la liberté ? Le pouvoir de se faire du mal ? Ben non, bien entendu. Le mal que l'on se fait est toujours un enfermement. On comprend alors que cet homme-là, c'est un homme malheureux, que sa vie est un enfer. On pourrait se dire que sa vie est mortifère, étant donné qu'il vit dans un cimetière, au milieu des tombeaux. C'est pas une vie, ça, de vivre dans un cimetière. Et puis ce qui montre le mieux que cet homme est tout sauf libre, ben c'est la rencontre proprement dite qu'il va faire avec Jésus. Jésus s'adresse à cet homme, nous dit le texte, en disant à un esprit impur de sortir de cet homme-là. Et cet homme supplie Jésus de le laisser tranquille, de ne pas le tourmenter, de ne pas le harceler. Et on constate là que l'homme qui dit ça n'est pas celui qui s'exprime. Celui qui s'exprime, ce n'est pas l'homme. Le texte nous dit que c'est Légion, un démon. Un démon parle à la place de cet homme. C'est ce démon, Légion, qui répond à Jésus à la place de l'homme. Et cela montre que cet homme qui se meurtrit nuit et jour, qui vit au milieu des tombes, qui s'est apparemment défait de ses chaînes, est en fait un homme possédé. Il est possédé par un démon qui est Légion, parce qu'il y a une multitude de puissances qui ont pris possession de l'homme en question. Donc, notre homme aux apparences libres n'est pas du tout libre. Il est soumis même à des puissances oppressantes qui parlent à sa place. Vous vous rendez compte ? Des puissances oppressantes qui parlent à sa place. Il n'a même pas la liberté de parole. Cet homme qui a perdu sa liberté d'expression, cet homme qui a perdu son intégrité, qui vit au milieu des tombeaux et qui se scarifie à longueur de journée, cet homme est là, au milieu des morts. Et cela ne semble poser de problème à personne. Après tout, s'il est possédé par un esprit impur, qu'il vit au milieu des morts, dans un lieu impur donc, eh bien, tout est à sa place. Les impurs avec les impurs. Et les cochons seront bien gardés. Et c'est le point de départ de ce texte. Le point de départ de ce texte, c'est que tout est en ordre, finalement, lorsque Jésus arrive. Et Jésus va venir retourner cet ordre des choses. Et c'est seulement ensuite que le rédacteur de l'Évangile fera dire aux gens du coin que celui qui avait eu la légion en lui était désormais dans son bon sens. Verset 15. Et c'est important ça. Parce que ça indique que l'homme, dont les gens disent après la délivrance qu'enfin il est dans son bon sens, cet homme, il était bien connu des habitants. Or, il était livré à lui-même. Il était abandonné par la population. Il était là, dans son coin, et tout le monde s'était habitué à ce qu'il soit comme ça, à ce qu'il vive comme cela, dans ces conditions mortifères. Tout le monde l'acceptait. On s'habitue à tout dans la vie. On s'habitue à tout. Même au pire. On s'habitue même à perdre sa liberté. Ici, la liberté de parole, la liberté de mouvement, la liberté de la dignité, qui sont au fondement de l'existence. Parole, mouvement, dignité, c'est le fondement de l'existence. Tous les habitants s'étaient habitués à cet ordre des choses. C'est comme ça. Vous savez, une sorte de règne de la fatalité. L'acceptation du pire. On ne le voit même plus, le pire. La seule chose qui avait jamais été imaginée pour essayer de prendre soin de cet homme, ça avait été de l'enchaîner. Parler d'une liberté. Et c'est dans ce contexte que Jésus apparaît. Il accoste sur un territoire qui est en dehors de la terre promise. Il est donc, pour les Juifs, déjà, lui, sur une terre impure. Et voilà qu'un homme qui vit au milieu des morts, donc un être impur, selon les catégories de l'époque, un homme impur va vers lui. Et Jésus, contrairement à tous les autres que cet homme a connus jusque-là, Jésus s'adresse à lui. Il lui parle. Il le prend au sérieux et il découvre que cet homme est possédé, que cet homme est sous l'emprise d'une foultitude de personnes ou d'entités ou de liens. Si Jésus s'en rend compte, c'est parce que Jésus, lui, ne s'habitue pas. Jésus ne s'habitue pas aux injustices et aux liens. Jésus ne s'habitue pas au malheur. Jésus ne s'habitue pas aux exclusions, aux mises à l'écart, à l'oppression. Jésus ne s'habitue pas aux privations de liberté, aux emprisonnements intérieurs. Jésus ne s'habitue pas à ce que des désordres deviennent l'ordre normal des choses. Jésus ne s'habitue pas au pire, il veut nous en libérer. Si Jésus ne s'habitue pas, c'est que c'est un veilleur. Il a le cœur ouvert, l'esprit ouvert, les yeux ouverts, un veilleur, un peu à la manière de ces prophètes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Comme un veilleur ne s'habitue pas à la nuit, comme un veilleur ne s'assoupit pas, Jésus, lui, exerce une veille permanente. Et cela vient trancher avec une attitude de résignation qui, elle, s'habitue à ce que le monde n'aille pas bien. Les liens de toutes sortes s'intensifient. L'injustice règne. Les libertés reculent. Les pressions augmentent. Bon, on s'habituera. On s'habitue à tout, non ? Mais Jésus, à la suite des prophètes, ne s'habitue pas. Sa sensibilité à la belle et grande vie, selon Dieu, ne s'émousse pas. Et la veille active de Jésus le conduit donc à agir en faveur de cet homme qui est prisonnier du pire. Jésus, ce n'est pas un observateur passif du cours des choses. Jésus intervient dans le cours des choses. Et ici, il pratique un exorcisme qui consiste à libérer l'homme des puissances qui le dominent et qui l'asservissent. Le récit montre alors que Jésus fait passer l'esprit impur, légion, en direction de 2000 cochons, qui sont considérés d'ailleurs eux aussi comme des animaux impurs, ce qui libère instantanément l'homme de l'emprise de ce démon. Alors je sais que la pratique de l'exorcisme peut sembler d'un autre âge. Nous pouvons avoir de l'exorcisme une opinion très négative, considérant aujourd'hui que c'est une pratique obscurantiste qui n'est pas digne des esprits éclairés que nous revendiquons être. L'exorcisme, c'est pourtant une pratique indispensable pour la vie sociale. Sans exorcisme, nous resterions tous et toutes dans l'état de cet homme que Jésus rencontre. Parce qu'étymologiquement, un exorcisme, c'est contraindre un mal à se retirer par une action de libération. C'est ça l'exorcisme. C'est pas les films, c'est pas des pratiques cachées, occultes, mystérieuses. C'est juste contraindre un mal à se retirer par une action de libération. Et ça, nous en avons tous et toutes besoin. D'ailleurs, je pense qu'en refusant de pratiquer des exorcismes, nous rendons notre société de plus en plus composée de personnes vivant avec des haillons au milieu des tombeaux et n'ayant d'autre perspective que de se blesser à longueur de nuit et de journée. Parce que tout ça, c'est une métaphore d'une actualité cruelle. L'homme possédé, c'est la métaphore de celui, de celle qui ne pense plus par lui-même, mais qui se laisse dicter sa vie par les pensées à la mode, par les autorités médiatiques, par des maîtres spirituels. L'exorcisme, c'est la métaphore de tout ce qui va venir libérer l'intelligence de l'individu, sa capacité à s'autodéterminer, tout ce qui va lui permettre d'élaborer des convictions personnelles, d'opérer des choix conscients, de s'exprimer en son nom au lieu d'être un perroquet servile. Ce que fait Jésus ici, c'est remettre de l'ordre dans la vie de cette personne, en remettant les choses à leur place. Les forces de domination, les rapports de pouvoir, les liens qui enferment, en remettant de l'ordre pour ouvrir à la liberté. Il paraît que ce récit a inspiré George Orwell lorsqu'il a écrit « La ferme des animaux ». Mais les cochons qui prennent finalement le pouvoir et qui viennent asservir tous les autres animaux sont ici déjà la figure de ceux qui ne payent pas de mine, mais qui établissent un rapport de pouvoir sur les autres, pour en prendre possession. Et Jésus, en faisant passer le démon Légion de l'homme au cochon, révèle la véritable nature de l'homme, révèle aussi la véritable nature du démon qui avait pris le pouvoir sur lui. Ce démon qui est isolé dans les cochons dont il prend symboliquement possession, ce démon conduit à la mort. L'exorcisme opéré par Jésus, qui consiste à rendre à cet homme sa liberté, lui évite donc un phénomène de domination qui l'aurait mené à la mort. Des fois que le lieu dans lequel il errait, cet homme, ne nous ait pas déjà mis la puce à l'oreille. Un cimetière. Jésus a remis le démon à sa juste place. Jésus a remis le diable à sa juste place. Et il remet également l'homme dans le bon sens. C'est ce que précise le narrateur au verset 15. Et l'action de Jésus ne s'arrête pas là. Verset 18, l'homme, libéré désormais, s'éprend de son libérateur, de son sauveur. Il veut rester avec Jésus, il veut rester avec lui. Ce qui est bien compréhensible après tout ce qu'il vient de vivre, non ? Mais Jésus va jusqu'au bout de la libération. Il libère l'homme de Jésus lui-même. Parce que pour Jésus, il n'est pas question de passer d'une soumission servile à une autre. C'est comme si Jésus lui disait « Je ne veux pas que tu te lies à moi. » Jésus ne vient pas juste prendre la place d'un esprit impur. Regardez, il renvoie l'homme dans sa maison. Il renvoie l'homme vers les siens. Il lui évite de s'attacher à lui et lui donne l'occasion de parler, de raconter tout ce que le Seigneur lui a fait et comment il a eu pitié de lui. Verset 19. Donc, Jésus fait passer cet homme du mutisme au témoignage, de l'enfermement à l'ouverture. Et l'homme est désormais en capacité d'apporter son propre témoignage en toute liberté, en devenant témoin de la force de la grâce qui l'a libéré. L'homme devient un témoin unique en son genre. Vous vous rendez compte l'histoire qu'il peut raconter ? Je me scarifiais. Je vivais au milieu des morts. Je n'avais pas de repos. Je pensais être libre, mais je ne l'étais pas. Et Jésus m'a libéré. Sa parole, elle devient décisive, car elle est une voix singulière et non une voix qui se fait l'écho d'une sorte de pensée dominante ou de puissances influentes ou juste consensuelles. Il peut développer une théologie de situation, une théologie de la libération, en apportant sa contribution personnelle, en apportant sa voix à la compréhension de la marche du monde. Cet homme libéré va venir libérer à son tour ses contemporains, les libérer des influenceurs de tout poil qui réduisent les possibilités de l'existence à leur propre point de vue, insensible à la réalité de chacun, de chacune. C'est ainsi, mes amis, c'est ainsi qu'on se rapproche au plus près de la vérité de la vie, de ce qui en fait le sel et le sens. C'est ainsi que l'on trouve et que l'on exerce la liberté. La vraie liberté, elle commence le jour où Jésus nous libère, où il nous sauve, où il nous rachète, où il nous attache à lui, tout en nous disant « mais tu es libre ». Chers frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est la résistance absolue à tout ce qui enferme et déshumanise. Le royaume de Dieu, c'est la libération des asservissements et des contraintes. Le royaume de Dieu, c'est la liberté d'expression, de mouvement, d'attachement. Le royaume de Dieu, c'est la liberté absolue et tenace parce que Dieu est comme ça et qu'il nous veut libres. Vivez libres. Vivez dans le royaume de Dieu. Vivez, vivons la glorieuse liberté des enfants de Dieu, annoncée par Paul comme un concept en Romains 8, verset 21. Vivons libres, libérés par le Christ. Amen.
Je vous invite à vous lever pour que nous puissions dire ensemble la confession de foi que vous avez reçue, qui était dans. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu et éclaireur de nos vies. Nous croyons en Jésus-Christ, Sauveur, signature de Dieu pour l'humanité. Il offre son pardon à tous et à toutes. Nous croyons en Dieu, Père et Mère, dont le ciel et les étoiles chantent en silence la puissance et la gloire. Nous croyons que l'Église sur la terre s'engage à la suite du Christ par ses mots et ses gestes, insuffisante, fragile
et solidaire des humains, infidèle et aimé de Dieu, au service d'un monde qui ne l'attend pas, et de Dieu qui toujours la colère et l'attend. Nous croyons que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle.
Amen. Oui, j'ai trouvé cette confession de foi québécoise assez tonique. J'avais envie de la partager et que nous puissions la dire ensemble. Je vous invite à vous rasseoir. Je laisse te débrouiller. Au moment de célébrer le repas du Seigneur, que la paix soit avec nous tous. Prions. Seigneur, tu as la patience d'un Dieu sage et la puissance de l'aigle pour nous rassembler en un seul corps, dans une même espérance. Alors, laissons là nos larmes et nos chagrins, habillons-nous de rire et de joie. Jésus est la vie plus forte que la mort des tombeaux. Il a vaincu le mal, il est vivant pour toujours. Habillons-nous des couleurs de l'espérance. Christ est ressuscité, et acclamons-le en chantant « Saint, Saint est le Seigneur ». Le chant au 62-42.
Jésus, au début de la nuit où il va être arrêté, prend du pain. Et après avoir rendu grâce, il le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et de même, après le repas, il prend la coupe et dit « Prenez et buvez, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à prier. Viens, Esprit créateur, recréateur, hôte invisible de nos existences. Donne vie à la parole qui nous fait signe, dans le pain rompu et cette coupe partagée. Qu'au plus intime de nous-mêmes, la présence du ressuscité ouvre maintenant un chemin de paix et de lumière.
Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à venir faire cercle tout autour. Ce sera un grand cercle, on va se débrouiller, nous sommes nombreux, mais je vous invite à venir. Nous procédons par intention. Philippe va passer vous donner un petit morceau de pain. Je passerai avec les coupes, le vin, le jus de raisin dans la coupe avec le ruban bleu, et vous pourrez tremper votre morceau de pain dans la coupe. Prions. Ô Père, que cette communion avec toi dans le Christ, notre frère, recrée entre nous une unité de foi et d'action. Rends-nous porteurs de paix, de justice et d'espérance autour de nous. Garde-nous vivants dans ton souffle pour que nous annoncions des jours nouveaux. Et c'est dans cette espérance que nous pouvons dire ensemble la prière que Jésus nous a laissée.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Et je vous invite à retrouver vos places. Prions encore. Seigneur, nous te prions pour tous les peuples en guerre, pour les civils qui payent le prix fort des destructions, de l'insécurité, de la famine. Nous te prions en particulier pour tous ces enfants à qui on vole leur enfance.
Seigneur, nous confions à ta miséricorde tous ceux, toutes celles qui, chez nous, vivent dans la précarité, l'insécurité, l'attente, le rejet, l'enfermement physique ou psychique. Nous pensons particulièrement à toutes les personnes aux prises avec des pensées de terreur, dévastatrices ou suicidaires. Soutiens-les vers un chemin de paix.
Seigneur, nous te confions nos communautés, nos pasteurs et nos conseillers, nos familles, en particulier les enfants et les jeunes. Toi qui es amour, mets dans nos cœurs l'espérance et ta paix. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier chant, le 35-20, les quatre strophes. Et pendant ce chant-là sera recueillie votre offrande. Merci Seigneur pour cette offrande. Nous vivons jour après jour de tes dons. Permets que cette offrande soit utilisée à ton service et pour ceux qui en ont besoin. Quelques annonces. Le prochain culte, le 3 août, ce sera chez vous, à l'EM. Voilà. Ce sera le... Non, ce ne sera pas encore le dernier. Ce sera le 6e. Et il y aura un culte au Lignon. Mercredi 30, il semblerait que le temps s'arrange et sera beau, donc il y aura des grillades à l'église évangélique aussi. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Daniel.
Pour lui dans vos prières, c'est très gentil. Et puis vous dire que effectivement l'après-culte c'est un petit peu du l'église est en travaux, donc c'est un petit peu oui un peu comme on peut, mais c'est fait avec bon cœur. D'accord, merci.
Merci Daniel.
En Matthieu 13 au verset 13. Jésus cite le prophète Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse. Puissions-nous nous détourner de nos cœurs endurcis qui s'habituent à tout et que nous puissions être guéris aujourd'hui, libérés pour le royaume. Je vous invite à vous lever. Que le Seigneur de toute tendresse vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne sa paix. Amen. Amen. Et nous vous prions de vous rasseoir pour le dernier morceau de musique. Merci. Merci à Anne-Lise pour la musique, merci à Daniel de nous avoir accompagnés et préparé cet après-midi. Et merci à vous tous, c'est bon dimanche. Merci à toi.